Bonjour, mesdames, messieurs. Voici l'Assemblée publique annuelle 2020 de PSP. Je suis Martin Glean, président du conseil d'administration de PSP, et je vous parle depuis chez moi, à Vancouver. Je dirigerai cette présentation qui sera suivie par celle de Neil Cunningham, président et chef de la direction. Premièrement, quelques mots sur la marche à suivre. Si vous avez des questions, nous vous encourageons à utiliser la fonction de clavardage tout au long du webinaire. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Je suis content que nous puissions nous connecter virtuellement, mais j'espère que nous pourrons tout de même nous voir en personne lors de l'Assemblée l'an prochain. Puisque je suis à Vancouver, j'aimerais souligner que je me trouve sur le territoire traditionnel non cédé des peuples Salish de la côte. Ceux et celles qui sont présentement à Ottawa se trouvent sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Anishinaabe, et nos collègues de Montréal se trouvent sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Mohawk. Je reconnais que nous travaillons tous à différents endroits et par conséquent sur différents territoires autochtones traditionnels. Je vous encourage donc à prendre un moment pour y réfléchir et en prendre conscience. En guise de rappel, le mandat de PSP consiste à gérer les fonds qui lui sont transférés par le gouvernement du Canada pour la capitalisation des prestations accumulées depuis le 1er avril 2000 par les membres des régimes de pension de la fonction publique du Canada, des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que par la Force de réserve, et ce depuis le 1er mars 2007. PSP gère les sommes qui lui sont transférées dans l'intérêt des contributeurs et des bénéficiaires des régimes. Il place son actif en vue d'un rendement maximal tout en évitant des risques et des pertes indues et en tenant compte de la capitalisation et des politiques et exigences des régimes ainsi que de l'aptitude de ceux-ci à s'acquitter de leurs obligations financières. Comme vous pouvez le constater ici, le Parlement nous a fourni un cadre de gouvernance législative par l'intermédiaire de la loi sur l'OIR-PSP. Le gouvernement du Canada est responsable de la politique de financement, de la nomination des 11 administrateurs externes, des membres du comité consultatif des régimes de retraite et du comité de nomination, lequel recommande les nouveaux membres du conseil d'administration, ainsi que du dépôt du rapport annuel de PSP au Parlement. PSP n'a pas de lien de dépendance avec le gouvernement du Canada. Notre organisation est guidée par le conseil d'administration qui travaille étroitement avec le chef de la direction et son équipe de direction qui, à son tour, élabore et met en œuvre la stratégie de placement de PSP. Le conseil d'administration joue un rôle essentiel dans le succès d'investissement PSP. Il est tenu de fournir une surveillance et des conseils de qualité pour s'assurer que l'organisation gère efficacement la croissance et continue de servir sa mission en vue de remplir son mandat à long terme. Le conseil d'administration participe à la définition de l'orientation stratégique de l'organisation et est responsable de la surveillance et de la gestion du risque, en plus d'assurer la sélection, l'évaluation du rendement et la rémunération du président-chef de la direction qui relève du conseil d'administration. Le conseil d'administration se réunit au moins 6 fois par année pour étudier les activités de la stratégie de PSP. De plus, les comités du conseil d'administration tiennent activement des réunions en personne ou de façon virtuelle au moins chaque trimestre. J'aimerais souligner le fait que dans le but de respecter les pratiques exemplaires d'un conseil d'administration indépendant, notre conseil est formé d'administrateurs externes. Cela signifie qu'aucun membre du conseil d'administration n'est membre de la direction de PSP. Les administrateurs ont tous fait l'objet d'une nomination du gouverneur en conseil basée sur leur expérience professionnelle, leur spécialité, leurs compétences dans l'industrie et leur capacité observable à guider l'organisation. J'aimerais remercier le comité de nomination externe pour son dévouement à trouver et à recommander au président du Conseil du Trésor de nouveaux membres pour le conseil d'administration. Le comité de nomination aide à assurer la bonne composition du conseil d'administration en équilibrant adéquatement les compétences afin d'offrir une gouvernance et une surveillance efficaces de PSP. Cette année, nous apprécions leur soutien pour le remplacement de 4 de nos administrateurs, ainsi que pour une demande de renouvellement. J'aimerais aussi remercier le secrétariat du Conseil du Trésor pour toute l'attention portée à la présentation de nos candidats aux ministres. Dans le but d'améliorer continuellement la gouvernance et l'imputabilité, le Conseil du Trésor a approuvé une politique de financement en 2018. Cette politique procure un cadre décisionnel pour soutenir la capitalisation des régimes du secteur public et officialise la relation entre le secrétariat du Conseil du Trésor, le bureau de l'actuaire en chef et Investissement PSP, entre autres parties prenantes. La politique de financement prescrit notamment la mise sur pied d'un comité de gestion de l'actif et du passif. Ce comité est composé de fonctionnaires issus des ministères représentant chacun des régimes, du ministère des Finances, ainsi que du bureau de l'actuaire en chef et d'Investissement PSP. Maintenant, quelques mots sur notre conseil d'administration. Nous travaillons ensemble avec l'équipe de direction de PSP en soutien au mandat. Pour accomplir notre plan stratégique et notre mandat, soit de gérer les sommes qui sont transférées à PSP, dans le meilleur intérêt des contributeurs et des bénéficiaires, pour placer notre actif en vue d'un rendement maximal, tout en évitant des risques de pertes indues. Avant que je ne cède la parole au président et chef de la direction de PSP, je m'en voudrais de ne pas parler de la pandémie. Tout au long de celle-ci, le gouvernement canadien, les employés de la fonction publique, les forces armées, les forces de réserve de la GRC ont répondu présents pour maintenir l'ordre et la sécurité au pays. Nous sommes reconnaissants du travail que vous effectuez au nom des Canadiens et nous nous sentons privilégiés que vous nous ayez confié la tâche de gérer et d'investir les sommes qui nous sont transférées pour vos régimes de pension. PSP était prête à réagir lorsque l'éclosion de la COVID-19 a commencé à faire les manchettes en janvier. Au conseil d'administration, nous avons reçu des rapports constants et tenu des réunions pour discuter des répercussions de ce qui est devenu une crise mondiale à la mi-mars. J'ai aussi gardé un contact virtuel avec Neil afin de nous assurer que le conseil d'administration offrait la surveillance et le soutien nécessaires. Le conseil d'administration continue de soutenir la direction en lui offrant des conseils afin d'aider l'organisation à se préparer et à s'adapter à cette situation sans précédent dans le but d'atténuer les risques et de saisir toutes les occasions. Neil, à toi la parole. Merci, Martin. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous.
Nous sommes pleinement conscients à PSP des contributions que les membres des régimes ont apportées et continuent d'apporter au nom de notre pays. Cette année, nous célébrons nos 20 ans d'activité. Nous sommes l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des régimes de pension au Canada, avec un actif net sous gestion de 169,8 milliards de dollars au 31 mars de cette année. Nous prenons notre travail très au sérieux, soit d'assurer la viabilité à long terme des régimes de pension. À cet égard, au cours des 20 dernières années, PSP y est parvenu avec succès. Notre stratégie d'affaires repose entièrement sur l'investissement des sommes qui nous sont transférées pour assurer une croissance à long terme, tout en tenant compte toujours du facteur risque. Notre équipe de plus de 800 professionnels à Ottawa, à Montréal, à New York, à Londres et à Hong Kong, ainsi que nos 6 groupes de placement associés aux classes d'actifs, nous permettent de diversifier notre portefeuille dans plus de 100 secteurs et industries au sein de plus de 85 pays. Avoir un pied à terre dans ces nombreux endroits est essentiel pour mieux comprendre les marchés dans lesquels nous opérons et avoir accès à l'expertise et aux investissements de ces marchés. Je ne pourrais pas être plus fier de la façon dont notre organisation s'est préparée à la COVID-19 et continue à la gérer. Notre système de surveillance de la gestion du risque nous a alertés tôt, à la mi-janvier. Cela nous a amené à restreindre les déplacements en Chine et à Hong Kong, puis à déplacer la plupart de nos employés de Hong Kong à Londres au début de février. Finalement, nous avons fermé tous nos bureaux pour passer entièrement en mode télétravail le 11 mars, plus tôt que la plupart des organisations. Nous avions déjà fourni à tous nos employés des ordinateurs portables comme outils supplémentaires, et ce, dans le cadre de notre programme axé sur l'équilibre travail-vie personnelle. Or, nous ne pensions pas que cette crise durerait plusieurs mois. Néanmoins, nous avons été en mesure de faire la transition du jour au lendemain sans affecter notre travail, y compris nos activités de négociation. Nous continuons tous à travailler de la maison. Au cours du crash boursier de la mi-février à la mi-mars, nous n'avions pas d'enjeu de liquidité. Nous avons même pu augmenter nos liquidités pendant que d'autres avaient de la difficulté et nous avons été en mesure d'exercer nos activités régulières de rééquilibrage des portefeuilles pendant cette période. Je suis aussi très fier de nos employés qui ont versé plus de 500 000 $ dans notre programme d'urgence spéciale pour la COVID-19. Ces fonds ont été ensuite complétés par un montant supplémentaire versé par PSP, ce qui a amené la contribution totale à plus de 700 000 $. Notre préparation, combinée au leadership de l'ensemble de l'organisation ainsi qu'au calme et au professionnalisme de nos employés, a démontré la force de PSP dans ces circonstances difficiles. Chez PSP, nous sommes fermement engagés à promouvoir l'inclusion et la diversité et nous continuerons à en faire toujours plus pour nous assurer d'offrir un environnement sécuritaire dans lequel tout le monde se sent valorisé et écouté. Tout au long de l'exercice, nous avons continué à prioriser l'inclusion et la diversité par l'entremise de nos 8 groupes d'affinités qui font la promotion des diverses initiatives internes et externes, y compris notre forum biannuel sur l'inclusion et la diversité, un événement d'une semaine qui se tient en novembre. À la suite du décès de George Floyd, de nombreux employés ont participé à de puissantes discussions qui nous ont tous amenés à nous questionner sur nos façons de penser et d'agir. J'étais ému de voir nos employés unir leurs forces pour s'engager rapidement à lutter contre le racisme envers les Noirs. Voilà pourquoi, en plus de notre important programme d'inclusion et de diversité, nous avons décidé d'appuyer l'initiative Black North afin d'unir notre voix à celle de plus de 200 organisations canadiennes et de contribuer à mettre fin au racisme envers les personnes noires au Canada. L'exercice financier 2021 marque la dernière année de notre plan stratégique Vision 2021, dont nous avons parlé dans les présentations précédentes. Cette année, nous réalisons les dernières initiatives prévues dans Vision 2021. Ces initiatives contribueront grandement à consolider les bases de notre croissance future. Nous avons 3 priorités pour l'exercice financier 2021. La première consiste à améliorer notre vision du portefeuille global. Nous effectuons la transition de notre processus d'évaluation du rendement et de rémunération afin qu'il soit davantage basé sur l'atteinte des objectifs de valeur ajoutée du portefeuille global et moins sur la performance individuelle des classes d'actifs. Nous réalisons la dernière initiative de Vision 2021 concernant l'approche du portefeuille global pour optimiser notre portefeuille avec des outils améliorés, notamment pour la couverture des devises et la répartition d'actifs. La deuxième priorité est le renforcement des bases. Au cours des 4 dernières années, nous avons bâti un grand éventail de capacités et nous profiterons de cette année pour compléter toutes les améliorations à notre système central. Autre point encore plus important, l'attraction et la rétention des talents sont devenues de plus en plus difficiles, spécialement dans ce contexte de COVID. Nous continuerons à améliorer l'expérience de nos employés afin d'être des concurrents plus efficaces. Et enfin, la troisième priorité vise à privilégier la prise de décision appuyée sur des données. Nous augmentons notre capacité à saisir et à analyser des données dans l'ensemble de l'organisation, notamment en développant des indicateurs de rendement clés dans l'ensemble des groupes de placement et des unités d'affaires de PSP. Le tout dans le but de nous aider à extraire des données importantes à propos de nos activités et de nos placements afin d'optimiser nos ressources et de prendre de meilleures décisions de placement. De plus, cette année, nous élaborons la prochaine mouture de notre plan stratégique. Nous continuerons à accroître notre accent sur le portefeuille global, à privilégier de plus en plus le partage de connaissances et la prise de décision fondée sur les données, ainsi qu'à améliorer notre proposition d'employeur. Et maintenant, regardons nos résultats financiers. J'aimerais d'abord préciser que PSP est en excellente santé financière malgré la pandémie. Pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, notre portefeuille a enregistré un rendement de -0,6%, déduction faite des coûts, surpassant ainsi le rendement de notre indice de référence qui s'élevait à -1,6%. Nous avons réalisé un rendement net de 5,8% sur 5 ans, surpassant celui de notre indice de référence de 5,1%. Et nous avons surpassé notre objectif de rendement à long terme en réalisant un rendement net de 8,5% sur 10 ans, supérieur à celui de notre indice de référence qui s'élevait à 7,5%. Sur cette période de 10 ans, nous avons généré des gains de placement cumulatifs de 32,9 milliards de dollars de plus que ceux prévus dans l'objectif de rendement, ainsi qu'un total de 81,6 milliards de dollars de revenus de rendement net cumulatifs. PSP a réussi à atteindre tous ses objectifs. Le succès de l'approche d'investissement PSP se mesure à long terme. Le graphique à barre, celui de gauche, présente le rendement de PSP, déduction faite des dépenses par rapport à l'objectif de rendement sur 10 ans. Notre rendement sur 10 ans de 8,5% était supérieur à l'objectif de rendement communiqué par le gouvernement du Canada de 5,7% et au rendement de notre portefeuille de référence de 7,2%, ce qui indique que PSP a réussi à créer de la valeur à long terme pour ses parties prenantes. Rappelez-vous que le portefeuille de référence représente ce que nous aurions pu obtenir avec des ressources limitées en investissant de façon passive dans des titres de sociétés cotées en bourse. La différence entre les deux représente la valeur ajoutée par PSP, et ce, en construisant un meilleur portefeuille et en procédant à une gestion active. Et enfin, le graphique à barre, celui de droite, isole la valeur ajoutée seulement grâce à la gestion active. Sur 5 ans, le rendement de PSP de 5,8% a surpassé celui de l'indice du portefeuille stratégique de 5,1%, démontrant ainsi que notre stratégie de gestion active génère des rendements excédentaires. Maintenant, j'aimerais vous parler de notre exercice du point de vue des classes d'actifs. Avec un actif sous gestion de 81,1 milliards de dollars, les marchés publics, qui regroupent les marchés publics et stratégies de rendement absolu, les PMARS, et les titres à revenus fixes ont réalisé un rendement sur un an de moins 3% et un rendement sur 5 ans de 4,3%. Avant que les marchés réalisent pleinement les répercussions de la COVID-19 sur l'économie mondiale, les principaux indices sur les marchés publics se rapprochaient d'un sommet historique. À cette date, les rendements absolus et relatifs de PMARS étaient positifs pour l'exercice en cours. En un peu moins de 5 semaines, de nombreux indices ont perdu environ 30 % de leur valeur, soit l'un des déclins boursiers les plus rapides et les plus significatifs de l'histoire. Avec un actif net sous gestion de 24 milliards de dollars, les placements privés ont enregistré un rendement sur un an de 5,2 % et un rendement sur 5 ans de 7,2 % Le revenu de rendement s'est élevé à 1,1 milliard de dollars. Le groupe a effectué de nombreux co-investissements, principalement dans les secteurs de soins de santé, des secteurs financiers et des technologies. Avec un actif net sous gestion de 13,3 milliards de dollars, les titres de créances, anciennement appelés les titres de créances privées, ont enregistré un rendement sur un an de 4,3 % et un rendement de 11,8 % sur 4,3 ans, et ce, depuis la création du groupe. Le portefeuille est bien diversifié par actif, par région, par secteur et par promoteur. Il se rapproche désormais de sa répartition cible et se situe à l'intérieur des limites de concentration. Avec un actif net sous gestion de 23,8 milliards de dollars, les placements immobiliers ont enregistré un rendement sur un an de moins 4,4% et un rendement sur 5 ans de 8,3%. Les placements immobiliers se sont concentrés sur l'optimisation du portefeuille en investissant dans des secteurs dans lesquels le groupe a une conviction élevée. Cette approche a notamment donné lieu à des acquisitions importantes dans les secteurs des immeubles résidentiels à logements multiples et des immeubles industriels. Les acquisitions d'actifs de base ont été concentrées dans les grandes villes internationales et les marchés à croissance élevée. Le groupe a également effectué des cessions d'actifs stratégiques de base qui avaient atteint leur objectif dans les secteurs des immeubles à bureaux au Canada, en Europe et aux États-Unis. Avec un actif net sous gestion de 18,3 milliards de dollars, les placements en infrastructure ont enregistré un rendement sur un an de 8,7 % et un rendement sur 5 ans de 12,1 % Les principaux placements pendant l'année comprenaient une grande entreprise canadienne de services publics offrant la distribution de gaz naturel et la production d'énergie renouvelable, ainsi qu'une part dans un exploitant de centres de données de très grande taille en Asie du Pacifique. Avec un actif net sous gestion de 7,6 milliards de dollars, les placements en ressources naturelles ont enregistré un rendement sur un an de moins 5,2 % et un rendement sur 5 ans de 6,6 %. L'exercice 2020 a été marqué par un déploiement important et continu en Australasie et en Amérique du Nord. Les investissements notables tout au long de l'année comprenaient notamment la privatisation d'une entreprise cotée en bourse australienne de premier plan qui cultive le coton et les noix de Grenoble, ainsi qu'une transaction crédit-bail d'un verger d'amandiers matures d'environ 11 500 hectares situé à Victoria, en Australie. Merci.
If you wish to submit a question, you may use the chat function. Mesdames et messieurs, pour poser une question, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de clavardage. Mr. Cunningham, we have our first question by Mr. Edward Cashman. I am concerned as to the viability of PSP investments in Rivera given the recent slew of class action suits. Should PSP be considering a divestment at this time before things get worse?
Thanks, Stefano. Good morning, everybody. Sorry, I can't actually see you virtually, but in the circumstances, obviously, this is the way that we need to proceed. So thank you for that question, Mr. Cashman. The short answer is no, there's no reason for us to be thinking about divesting of Rivera in face of the threatened class action lawsuits. Let me start by expressing extreme sympathy for those who have lost loved ones in the COVID crisis, particularly those in long-term care homes. It's an unprecedented situation, as we all know, and the system has been taxed to the extreme, and you know, we also need to put a huge debt of thanks to our frontline workers who have been the real heroes in fighting this. But you know, from the specifically on the question, PSP has a very robust risk management system, very robust governance of Rivera, with an independent board of Rivera, including industry experts with a lot of history in long-term care and in healthcare. They are overseen, of course, by PSP management and ultimately by PSP board. And there have been extensive investigations done when COVID was hitting and when bad outcomes were occurring. And we established pretty convincingly that there's no merit, in our view, to these threatened class action lawsuits. And I'll point out they are threatened at this point. They haven't been certified. We don't believe that they will be certified. And even in the event of a certification, we don't believe there'll be any significant loss to Rivera. That, you know, I will say, though, that's not to diminish the problems that we all know now exist in long-term care, and that those inside the industry have known for quite some time exist within long-term care, mostly stemming from a long-term underfunding of the sector, and that has been a direct result of, or directly resulting in things that we see manifesting themselves today. PSP is committed to best practices in every investment that we undertake. And in Rivera has been attempting, since we acquired it in 2007, to work from inside the industry to exert change, to encourage best practices, to try to convert some of these older homes with multi-bed wards into more modern facilities. And they've been pushing on rope to some extent to get it done. So I will say this, that in the event that the studies that are being done and then the ultimate solutions that may be arrived at for the long-term care industry, in the event that they don't result in a situation, including adequate funding, whereby PSP can feel proud of the care that's provided in these homes, we will exit, because they will no longer meet our own internal ESG and ethical guidelines if we can't, you know, because of the structural issues, if we can't provide the level of care that we feel should be provided.
Second question by Mr. Ryan Stewart. What is the reason that PSP has invested in Rivera?
That's a good question, Ryan. Mr. Ryan, thank you. So PSP bought Revera. It was originally called Retirement Residences REIT. It was a take private in 2007. The investment hypothesis was fairly simple in that when you look at the aging population, as the old saying, there's only two things certain in life. And I'll say aging and taxes rather than death and taxes. But the growing senior population provides a terrific investment opportunity for a pension fund to make long-term investments. Now, I'll point out that Revera is 90%, and so since 07, we've grown it into one of the larger owner and operators of both retirement beds and long-term care beds in Canada, the US, and the UK. It's roughly 90% invested in the retirement sector, which is independent living and private pay, but is still one of the larger Canadian operators of long-term care. The return profile is very skewed in that where we make the maximum return is in the retirement side, especially where we do development activity. And the long-term care is a much more steady, lower return business, which is designed similar to what you would consider a public infrastructure type of asset, although with obviously the operating responsibility of long-term care. But that's the reason we're in it. It continues to be a very good business for the long term. The demographics are in favor, and we've done quite well on it considering the size of the investment. And the opportunity, particularly in the development of retirement side.
Follow-up question by Mr. Stuart Ryan. Does PSP have an ethical investment policy?
Sure. And it's encapsulated in our ESG policies, which have I'll call it a reputational risk overlay, that every investment we make, our responsible investment team is involved in the initial stages as well as the final sign-off on making the investment. And as I say, we look at the environmental, the social, and the governance aspects as well as reputational risk aspects of investing in that particular investment. And we kill investments fairly frequently because of ESG reasons. It's just not either because it's one that we don't feel we could or should invest in, or the partner is not somebody we should be investing with, or if we feel that it's an industry or a sector which might be facing headwinds in the future because of the nature of the industry. So it's a very robust, we don't call it ethical investment policy necessarily, but it's encapsulated in the ESG policies and procedures.
Are there no further questions at this time? Ladies and gentlemen, I remind you that if you wish to pose a question, you may use the chat functions. Mesdames et messieurs, si vous voulez poser une question, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de clavardage. There are no further questions at the time, so Mr. Cunningham, Mr. Glynn, turn it over to you.
Okay, well, thank you very much. I'm Martin Glynn, the chairman of the board of PSP, and I thank you very much for joining us today, and we look forward to seeing you again in a year. And we are working very hard as a board and as a management team to get through this financial and health crisis and do the best job we can for our stakeholders. So thank you very much for participating, and we look forward to seeing you next year. Thank you.
Thank you.